c'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Claude Kianza, la présentation.
Merci beaucoup, Tina Salama. Bonsoir et bienvenue à l'émission de ce soir. Dialogue entre Congolais aborde deux thèmes à caractère économique qui sont au fait liés. Comme premier thème, dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Un dollar s'échange aujourd'hui à 760 francs congolais au taux officiel, contre 690 francs il y a plus d'une semaine. Et dans notre second thème, la Banque mondiale se propose d'octroyer à la RDC une aide d'urgence de 100 millions de dollars américains pour faire face aux conséquences de la crise financière mondiale ou internationale. Quelle analyse faire de ces deux situations? C'est la question que nous nous posons ce soir et nous en discuterons avec trois invités. Jean-Lucien Boussa, député national, deuxième vice-président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale et secrétaire général adjoint du MLC chargé de l'idéologie et programme. Gilbert Kaboué-Kazadi, ancien directeur à l'Association nationale des entreprises du Zaïre, ANEZA, consultant en matière économique et monétaire et membre du PPRD, le parti au pouvoir. Et Grégoire Bakandeja, professeur de finances publiques et de droit des affaires à l'Université de Kinshasa et à l'Université de Paris en Sorbonne en France, ancien président du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo, ancien ministre de l'économie et commerce, ancien président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Comme nous l'avions annoncé, nous commençons cette émission par notre premier thème qui est la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Un dollar se change aujourd'hui à 760 francs congolais au taux officiel contre 690 francs congolais il y a plus d'une semaine. De son côté, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a tenu ce mercredi au siège de cette institution un point de presse sur la situation économique et financière de la RDC justement. Monsieur Jean-Claude Massangou donne ici les stratégies pour stabiliser le franc congolais. Il a dit au micro de notre confrère Georges Kamoudjova.
Notre stratégie à nous, au niveau de la Banque centrale, nous disons bon, il faut tenir le coup. Nous savons que le franc va se déprécier par palier au fur et à mesure, petit à petit. Et nous savons qu'au moment où nous serons en mesure de vraiment intervenir avec de gros paquets, ce sera à partir du mois de mars. Le mois de mars est un mois où le contribuable déclare ses impôts et paye le solde de ses impôts. Donc nous attendons à ce qu'il y ait de fortes entrées en monnaie nationale pour réconforter le compte général du Trésor, et également aussi en devise pour la Banque centrale qui aura plus de moyens pour intervenir directement sur le marché. Mais lorsqu'on n'a pas suffisamment de devises pour intervenir sur le marché, bon, la Banque centrale intervient à travers le marché monétaire. C'est pour ça que nous avons augmenté le taux d'intérêt du BTR, billet de trésorerie, le taux directeur de la banque, pour faire en sorte que ceux qui possèdent de la devise puissent le changer, se mettre en francs congolais parce qu'ils gagnent des taux d'intérêt qui sont importants. Et alors, à ce moment-là, bon, nous ponctionnons une liquidité en monnaie nationale. C'est comme ça que nous intervenons. Depuis que nous avons commencé, nous avons absorbé 29 milliards de francs avec un objectif d'absorber 65, 67 milliards de francs. Alors, ça c'est l'impact de la politique monétaire, 29 milliards du côté du budget, du trésor, et aussi en ayant des excédents budgétaires, ils vont aussi ponctionner l'excédent de liquidité et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons ponctionner tout cet excédent de liquidité à partir du mois de mars.
Bonsoir Jean-Lucien Boussa. Bonsoir Jean-Lucien Boussa, est-ce que vous nous entendez? Voilà, nous avons quelques petits problèmes avec Jean-Lucien Boussa. Est-ce que vous nous recevez maintenant?
Oui, je vous entends très bien.
Voilà, vous êtes député national, deuxième vice-président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Vous êtes également secrétaire général adjoint du MLC chargé de l'idéologie et programme. Votre réaction par rapport aux stratégies que le gouverneur de la Banque centrale vient dénoncer pour stabiliser le franc congolais?
Ben, je voudrais d'abord rappeler à l'opinion que lorsque le gouvernement, y compris le gouvernement de la Banque centrale, présente leur budget à l'Assemblée nationale et indique un taux de croissance de l'économie de plus de 10%, un taux d'inflation moyen de 11%, un taux d'échange à 585 francs congolais pour un dollar, déjà en deçà de la réalité à l'époque, les députés en général, et l'opposition en particulier, posent comme principe que c'est irréaliste. Les prévisions de cadrage macroéconomique sont irréalistes. La réponse du Premier ministre, du ministre des Finances, du budget, y compris du gouvernement de la Banque centrale, c'est une politique volontariste de pouvoir atteindre cet objectif au premier trimestre 2009. Aujourd'hui, la réalité des données sur le terrain, en termes de paramètres macroéconomiques et taux d'échange de devises, le franc congolais à 780 à la vente, franc congolais, un dollar. Aujourd'hui, le taux d'inflation est au-delà de prévisions budgétaires. Aujourd'hui, nous ne parlons même pas du taux de croissance, dont les données ne nous sont pas communiquées. Ça veut simplement dire qu'il y a eu un vrai problème de prévisibilité et la non-prise en compte des contraintes à la fois internationales et des contraintes nationales. Je voudrais aussi rappeler, si vous le permettez, parce que c'est essentiel par rapport à ces droits, je voudrais aussi rappeler que lorsque nous disons il faut de la bonne gouvernance. Le gouvernement de la Banque centrale vient d'indiquer des stratégies en rapport avec le comportement des finances publiques, mais en même temps avec la politique monétaire. C'est très lié. Les finances publiques, le problème des finances publiques, c'est aussi la production des recettes publiques importantes aujourd'hui avec la mauvaise gouvernance, mais aussi la non-intégration des efforts financiers internationaux. Nous en arrivons à des recettes fiscales insuffisantes. Or, le gouvernement de la Banque centrale pose le problème en termes d'excédent budgétaire. À partir du moment où les recettes sont insuffisantes, mais en même temps les dépenses, ce qui est les dépenses non essentielles, sont énormes, on ne peut pas espérer un excédent budgétaire. Donc, première stratégie, mauvaise stratégie. Deuxième stratégie, le relèvement des taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale. C'est classique. Malheureusement, avons-nous un véritable marché financier pour que l'élasticité par rapport à l'accroissement du taux d'intérêt directeur de la Banque centrale puisse décliner sur une véritable politique qui permette d'absorber l'excédent de la masse monétaire en circulation.
Et c'est un vrai problème. Jean-Lucien Moussa, le taux directeur, c'est pour attirer le fonds congolais au niveau de la Banque centrale, les retirer du marché.
Bien entendu, le taux directeur, ça permet à ceux qui thésaurisent de l'argent ou à ceux qui veulent réaliser quelques intérêts au travers du mécanisme bancaire, à travers la politique monétaire, de pouvoir donner leurs ressources au niveau des banques pour pouvoir bénéficier des taux directeurs. Le marché financier congolais est inélastique.
Merci beaucoup. On va revenir. On vous garde encore dans cette émission. Et nous avons également dans cette émission donc le professeur Grégoire Bakandéja. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Vous enseignez les finances publiques et le droit des affaires à l'université de Kinshasa et à l'université Paris 1 Sorbonne en France. Votre réaction par rapport à ces mesures proposées par le gouverneur de la Banque centrale?
Chez les journalistes, je crois que je peux pas vous donner une réponse en partant de l'intervention et du gouverneur de la Banque centrale et de
Jean-Louis Jean.
Parce que le problème est beaucoup plus profond que cela. Pour l'économie porte sur quoi? L'économie porte sur ce qui est produit, ce qui est vendu, ce qui est échangé sur un marché. Cela suppose que ce marché fonctionne dans les conditions les plus normales possibles, c'est-à-dire qu'on trouve dans le pays tous les agents économiques qui participent activement aux activités économiques dans notre pays. Ici, on voit le seul agent qui est l'État. Et tous les discours des politiques pour résoudre les problèmes de la crise sont des discours qui sont basés sur le comportement de l'État. Or, l'État n'est pas le seul acteur économique. Il faut intégrer l'ensemble des acteurs économiques pour construire ce qu'on appelle un système financier. Pourquoi il y a crise? Il y a crise financière surtout lorsque on constate que pour le fonctionnement dans une économie normale, les entreprises doivent se retrouver de l'argent, des ressources, en recourant sur le marché financier. et place avantageusement les titres. Et ces marchés financiers sont constitués de quoi? Il y a d'abord le marché des valeurs mobilières, qui est un marché primaire avec les actions et les obligations. Les entreprises qui ont besoin de prospérer doivent passer par là. Il y a le marché monétaire, essentiellement le marché interbancaire entre les banques centrales, entre les banques et la banque centrale. Et il y a le marché à terme pour couvrir tous les risques que prennent les entreprises. Mais or, dans le cas d'espèce, dans le cas d'espèce, nous avons un problème dans notre pays qui part du régime de change que nous avons adopté. La crise actuelle, en fait, c'est la crise de change. Elle est due au fait que on ne retrouve pas dans la caisse de l'État ce qu'on appelle les liquidités bancaires. Les liquidités bancaires qui concernent à la fois les liquidités officielles, c'est-à-dire les liquidités qui proviennent par exemple de paiements des impôts, et le gouverneur de la banque vous a dit effectivement que les liquidités proviennent de là. Il y a ensuite les liquidités officielles qui détiennent les banques, mais comme nous avons un régime de change flottant, il faut maintenir ce régime de change.
C'est-à-dire
le régime de change flottant, ça veut dire que la valeur du dollar par rapport au franc congolais est déterminée par l'offre et la demande dans le cadre d'un régime de change qui est un régime flottant. Mais à partir du moment où nous avons en circulation plusieurs monnaies qui cohabitent sans que les liquidités dont je parle pour constituer les réserves ne sont pas les propriétés de la banque centrale. Il ne faut pas demander des miracles à la banque. Parce qu'il y a un problème fondamental qui est là. Nous sommes dans tous les pays, toutes les transactions sont effectuées en monnaie ayant cours légal, c'est-à-dire la monnaie nationale. C'est-à-dire le franc congolais devait être une monnaie de référence, et ainsi toutes les banques privées qui détiennent des avoirs devraient normalement les loger dans des comptes courants de la banque, et en ce moment-là, la banque centrale pourrait être en mesure d'intervenir avec beaucoup plus d'efficacité sur le marché monétaire.
Et qu'est-ce qui se passe au Congo?
Bon, ce qui se passe au Congo, c'est que la banque centrale n'a pas une totale maîtrise des recettes en devise des banques comme certaines entreprises qui opèrent. Elle ne reçoit que des royalties. Et c'est ça que nous avons voulu. Alors, il ne faut pas demander des miracles à une banque centrale qui fait déjà ces efforts-là. Donc ça, c'est sur le plan tout à fait technique.
Donc,
que
j'ai dit. De façon simple, pour nos auditeurs, si le franc congolais n'est pas stable aujourd'hui, c'est parce que le Congo, la République démocratique du Congo, manque suffisamment de devises qui peuvent soutenir cette monnaie nationale.
Voilà, il faut se poser la question, pourquoi la République démocratique du Congo manque de devises? La République manque de devises parce que elle n'a pas la maîtrise de ses devises. Qui devait maîtriser ses devises? C'est la Banque centrale. Elle devait maîtriser lesquelles devises? Et les devises qui viennent des recettes que l'État collecte, parce qu'il y aura des entreprises d'État qui vendent à l'extérieur, mais aussi les devises des privés qui opèrent dans le pays. Quand vous allez à Brazzaville, voilà l'exemple le plus simple.
Rapidement,
quand vous allez à Brazzaville ou en Zambie, vous avez le Kwacha. Et ils ont un régime d'échange de flottement, un régime d'échange de flottant. Mais vous ne pouvez rien acheter dans un magasin avec le dollar ou l'euro. On va vous demander d'aller échanger ça dans une banque pour travailler avec le Kwacha ou en face pour travailler avec le franc CFA. Alors c'est ça que les Congolais n'aiment pas. Vous ne pouvez pas demander des miracles à l'État en adoptant les comportements qui appauvrissent l'État.
Et l'État qui n'aime pas ce système ou ce sont des Congolais, d'après vous?
Bon, vous savez, les Congolais sont dans leur culture un peu dollarisée. Vous savez, d'abord, le dollar, c'est un peu satanique, comme on dit, en tant que tel. Le compte dollar. Oui, c'est-à-dire que quand vous voulez avoir une maîtrise sur tout ce qui se passe dans votre pays, il faut que toutes les transactions se fassent d'abord, premièrement, dans une monnaie ayant cours légal, qui est la seule monnaie de référence dans les transactions.
Ce qui n'est pas le cas.
Ce qui n'est pas le cas chez nous. Deuxièmement, il faut que toutes les transactions passent par les systèmes bancaires. Or, vous savez, et tout le problème de crise pas seulement pour la financière, la crise politique avec les guerres, tout ça c'est lié au fait que les gens veulent continuer avec une économie de prédation et empêche l'État d'avoir une maîtrise sur la gestion de ses ressources. Mais alors là, ça poserait à n'importe quel gouvernement des problèmes de gestion. Donc il faut une concertation globale pour envisager des solutions intéressantes pour le pays.
Voilà, nous avons un troisième invité, Gilbert Taboué Kazadi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien directeur à l'Association nationale des entreprises du Zaïre, ANESA, consultant en matière économique et monétaire et membre du parti politique PPRD. Donc, vous avez suivi le professeur Bakan déjà. Est-ce que d'après vous, la RDC, si elle manque des devises, est-ce que ce n'est pas parce qu'elle a une politique trop libérale lorsque l'État, par exemple, autorise aux entreprises exportatrices de garder à l'étranger 70% de leurs recettes en devises et de ne rapatrier que 30%?
D'abord, la première correction, j'ai travaillé à la NESA aujourd'hui, la SEC.
Ouais.
Maintenant, j'évolue en indépendant. Pour revenir à la question, je crois que le professeur Bakandeja a souligné un certain nombre de problèmes fondamentaux. Mais la situation actuelle, elle est beaucoup plus liée au fait que la Banque centrale, n'ayant pas la maîtrise du dollar, qui est l'étalon aujourd'hui, c'est ce qui fait que ça bouscule le franc congolais. Tout Congolais qui peut lire l'histoire du franc congolais, à l'époque, la Banque centrale du Congo, à l'époque, avait beaucoup d'or, des lingots d'or, qui faisaient la valeur de la monnaie. À travers le monde, vous avez la plupart des banques centrales ont des lingots d'or. Mais ces lingots d'or permettent à garder la valeur de la monnaie nationale. Aujourd'hui, nous avons pratiquement presque tout vendu. On n'a pratiquement plus de lingots d'or comme réserve. Ajoutez à cela le fait que la monnaie américaine, qui est le dollar, qui est celui qui a supplanté en quelque sorte l'étalon de valeur de référence, c'est ce qui nous crée des problèmes. Mais quand vous regardez à travers le comportement du franc congolais au niveau du taux d'inflation, vous remarquerez que le problème arrive lorsque on va au-delà d'une certaine indiscipline dans la gestion, dans les dépenses publiques. Principalement aujourd'hui chez nous. Vous remarquerez que c'est au mois de janvier, fin décembre, mois de janvier, que le dollar, disons le franc congolais, a commencé à prendre de l'ascenseur. Comment on peut expliquer cela? Premièrement, il fallait qu'on paye les gens, disons les salaires au niveau de l'administration publique, au niveau de l'armée, de la police. Il ne faut pas non plus oublier que la guerre qui est à l'est là-bas englobe beaucoup d'argent qui font que l'État congolais se retrouve avec beaucoup de dépenses et recourt parfois à la planche à billets et ça amène l'envolée du franc congolais qui va en désordre. Deuxièmement, il ne faut pas non plus oublier que au départ, à part l'argent qui viendrait de l'OFIDA et qui viendrait de la DGRAD, il y avait les entreprises minières comme l'ANISA, aujourd'hui pratiquement à l'arrêt. Ça fait que la Banque centrale, qui devrait maîtriser la valeur de la monnaie franc congolais, n'ayant pas les dollars qui entrent, crée de problèmes. Aujourd'hui, vous avez les entreprises dans le domaine de télécommunications, par exemple. Ces entreprises brassent énormément d'argent en termes de dollars. Mais ces dollars-là ne passent pas par la main du pouvoir public à travers la Banque centrale. Quand on dresse à la fin de la journée, on dit, voilà, le taux de change entre le franc congolais et le dollar est autant. La Banque centrale ne fait que enregistrer. Elle ne maîtrise pas, ce n'est pas elle qui gère la masse monétaire étrangère en
Monsieur Gilbert Kaboué, est-ce que vous pensez que la RDC court à la catastrophe avec des dépréciations de l'ordre de 10 000% d'inflation, comme ce fut le cas du temps de Mobutu, dès lors que le gouverneur de la Banque centrale, si je l'ai bien compris, a dit que ce n'est qu'au mois de mars que peut-être la Banque centrale pouvait avoir suffisamment de devises pour essayer de stabiliser le franc congolais. Rapidement, en une minute.
Oui, justement, moi je pense avec quelque chose qui est en train de venir à l'Est, on est en train de terminer, entre guillemets, le problème de l'insécurité là-bas. Je crois que l'État congolais, pour aller dans le sens de diminution de ses dépenses énormes en termes de guerre là-bas, on peut arriver à maîtriser, disons, l'envolée du franc congolais.
Merci beaucoup.
Si cela n'arrive pas, je crois qu'on peut courir vers la catastrophe.
Merci beaucoup. Jean-Lucien Boussa, je reviens à vous. Je rappelle que vous êtes député national MLC. Vous êtes deuxième vice-président de la commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Quelle solution, d'après vous, pour stabiliser le cours du franc congolais, pour que les Congolais ne puissent pas perdre leur pouvoir d'achat?
Mais j'avais pensé que nous, c'est déterminé aussi pour moi les causes de ces dérapages du franc congolais. Je n'ai pas répondu à la question comme les autres.
Rapidement, allez-y.
Très bien. À quatre niveaux. D'abord, au niveau des finances publiques. Il y a un manque d'orthodoxie au niveau de la gestion des finances publiques. C'est-à-dire, les ressources de l'État ne sont pas affectées à des dépenses de reconstruction, à des dépenses prioritaires, plus à des dépenses politiques, à des dépenses ostentatoires. Deuxième élément, les déséquilibres d'échange, liés à trois éléments. Le premier élément, c'est qu'avec la baisse des taux de croissance dans les pays où nous exportons et nous importons, il y a des effets directs sur le comportement de notre économie, et donc nos recettes aussi extérieures diminuent. La fermeture au niveau interne des entreprises productives de recettes en devises, notamment au Katanga et dans les Kasaï, sont aussi à la base de du faiblissement des rentrées en devises et de la production de devises dans notre pays. Il y a aussi des pas de porte de différents contrats chinois que nous attendons depuis l'année passée, qui ne sont jamais venus. Et ceci...
Ça signifie quoi, pas de porte, pour que nos éditeurs comprennent?
Pas de porte, c'est des montants, en termes simples. C'est des droits dont détient l'État congolais lorsqu'il donne des concessions à une entreprise étrangère. Donc, comme le mot l'indique, le droit pour accéder à ces concessions s'appelle pas des portes, n'est-ce pas? On nous avait dit qu'on devait avoir 300 millions de dollars en début de cette année, les 300 millions ne sont jamais là. Et donc, toute cette panoplie d'éléments font qu'il y a un grand déséquilibre au niveau des changes et qui se déporte sur le marché des changes et qui fait que la monnaie dérape. Troisième élément, la politique monétaire, je l'ai indiqué, elle est laxiste. C'est vrai, les directeurs... Le gouverneur de la Banque centrale a parlé du taux directeur de la banque qui est relevé. Ça veut dire que nous sommes dans une politique monétaire restrictive. Mais en même temps, il y a une attitude contradictoire où des avances de la Banque centrale sont faites à l'État. Et là, ça pose un vrai problème de rationalité de la gestion de la politique monétaire. Troisième et dernier élément,
oui,
c'est l'inflation importée. Aujourd'hui, vous savez que le prix des produits alimentaires sur le plan international ont monté des prix. Et même le prix des produits manufacturiers. Et donc, le fait que nous importions ces produits à des prix élevés, nous devons les écouler avec un bénéfice. Les entrepreneurs les écoulent avec un bénéfice et reporter sur le marché congolais, un marché dont l'offre est insuffisante, n'est-ce pas? Cela a des effets sur la dépréciation de la monnaie.
Quels
sont les quatre facteurs? Alors, la réponse, si je peux me permettre, quelle est la réponse à toute cette problématique?
En une phrase.
Une gestion orthodoxe des finances publiques. Un effort de croissance économique en termes de la diversification de l'activité de l'économie réelle. Mais allons vers l'agriculture, allons vers l'énergie pour pouvoir avoir des secteurs porteurs de croissance économique qui nous permettent de faire face à l'insuffisance des devises étrangères. Politique monétaire restrictive, mais en même temps, il faut éviter de financer l'État par des avances de la Banque centrale. Ceci est illégal parce que le statut de la Banque centrale l'interdise. L'inflation importée, il faut essayer de faire en sorte que des productions alternatives au Congo, surtout dans le secteur alimentaire, permettent d'éviter, n'est-ce pas, de réduire les grandes importations des produits alimentaires qui ont augmenté des prix à l'étranger.
Jean-Lucien, vous avez suivi le professeur Bacon. Déjà, il a parlé de la dollarisation de l'économie de la RDC et Gilbert Kabwe Tadagia a également dit que la Banque centrale du Congo ne maîtrisait pas totalement le dollar alors que la plupart des transactions se font en dollars. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut supprimer les transactions en dollars dans ces pays comme l'a évoqué le professeur
Bacon? Notre économie, nous avons telle option tous d'une économie libérale. N'est-ce pas? Mais cela veut dire aussi que nous soyons capables de tirer le maximum de profit de cette économie libérale en développant un marché intérieur capable de faire face à la compétition internationale. D'une part. D'autre part, lorsqu'on nous pose la question, quelle est la monnaie à préférer? Est-ce que le franc congolais ou le dollar? En tant que Congolais, nous ne pouvons que garantir, n'est-ce pas, la stabilité de notre monnaie et donc demander aux Congolais de consommer en franc congolais. Malheureusement, l'instabilité structurelle du franc congolais a changé des comportements des Congolais pour les amener vers une monnaie refuge.
Merci.
Où l'on est sûr, que lorsqu'on a ces économies en devise, on est plus ou moins sûr de préserver son pouvoir d'achat.
Merci.
Je vous rappelle
beaucoup,
que celui qui touchait 100 000 francs congolais en décembre 2008, aujourd'hui, qui, s'il avait 150 dollars, aujourd'hui, il n'a que 100 dollars.
Merci beaucoup, Jean-Luc.
Donc, il prospère sur le plan du pouvoir d'achat. Et donc, il appartient au gouvernement, une fois de plus, à la Banque centrale, qui est une fait partie intégrante du gouvernement, de pouvoir gérer les finances publiques.
Merci.
Et la monnaie de façon orthodoxe.
Merci, Jean-Luc. Professeur Bacon, déjà, faut-il supprimer les transactions en dollars? Parce que vous avez donné l'exemple de la Tanzanie ou d'autres pays africains où, pour acheter quelque chose, il faut amener la monnaie locale.
D'abord, monsieur le journaliste, je vais revenir sur quoi portent les finances publiques.
Rapidement.
Les finances publiques portent sur... Il s'agit donc des prélèvements effectués sur les richesses produites dans un pays et évaluables en unité monétaire. Tant qu'il n'y aura pas de production dans le pays, c'est-à-dire la production industrielle, la production agricole, la production intellectuelle, il ne peut pas y avoir des finances publiques, donc ça ne porte que là-dessus.
Les diamants, par exemple, n'étaient plus depuis un certain temps.
Bon,
le cours du cuivre, du cobalt ont chuté.
Non, mais même quand le diamant se vendait, le diamant n'était pas la propriété absolue de l'État. Les gens oublient que la NIDBA est une société d'économistes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, lorsque la gétamine produisait, en tant qu'entreprise publique, or, on connaît les défis de la gétamine, donc les filles ne peuvent pas provenir de là. Alors, vous répondre directement comme ça en disant, nous pouvons être capables d'avoir un régime de change qui nous permettrait de résoudre le problème. Aujourd'hui, tout le monde a dit qu'il faut aller dans l'économie libérale, c'est-à-dire avoir un régime de change flottant, mais ce régime n'exclut pas qu'on ait dans le pays une monnaie ayant cours légal dans les transactions.
C'est-à-dire accepter que le dollar circule concurremment avec le franc congolais?
Non, mais c'est la difficulté que nous avons. Pourquoi le dollar circule avec les autres monnaies? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des transactions en dollars. Et la majorité, je vous ai expliqué de tout ce que nous avons comme prédation économique avec les guerres et tout. Tout ça, c'est lié au fait que les gens ne veulent pas que les transactions qu'ils réalisent soient contrôlées par la Banque centrale. Ben, lorsque vous allez dans un pays étranger, que vous êtes un opérateur économique, si vous voulez acheter, acquérir des biens à l'extérieur, le chemin, vous devez passer par une banque. C'est la banque qui va acheter en vous préfinançant et non pas que vous, Congolais, vous vous promenez avec des milliers de dollars. Il y a des Congolais qui sont arrêtés souvent à l'extérieur avec des millions de dollars en cash.
Merci, professeur. Malheureusement, nous devons passer à notre second thème. Et je lis quelques réactions de nos éditeurs. Pour M. Sam Sadi de Kinshasa, deux raisons majeures sont à la base de la dépréciation du franc congolais, la non-maîtrise du cadre macroéconomique et le non-respect des décisions prises par les autorités. C'est la dollarisation de notre économie, la corruption des inspecteurs de l'économie qui ne font plus leur travail et l'impunité des saboteurs de l'économie qui sont à la base de la dépréciation du franc congolais. Réaction signée Gilbert Nkoulou Delikasi au Katanga. Enfin, Adela Matedougouté Mbonor Kivu estime que le gouvernement Mouzito doit revoir sa politique économique pour rendre stable le taux de change qui qui a pour conséquence directe la flambée de prix sur le marché. Donc, et je rappelle à nos auditeurs hein, que nous parlons ce soir de la Banque mondiale qui se propose en deuxième thème, dans notre deuxième thème, nous allons parler de la Banque mondiale qui se propose d'octroyer à la RDC une aide d'urgence de 100 millions de dollars américains pour faire face aux conséquences de la crise financière mondiale ou internationale. C'est la seconde partie de cette émission. Nous en parlons dans, ce soir avec Jean-Lucien Boussa, député national MLC, deuxième vice-président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale et secrétaire général à l'adjoint du MLC, chargé de l'idéologie et programme, Gilbert Caboy-Cazadi, ancien directeur à la FEC, consultant en matière économique et monétaire et membre du PPRD, le Parti au pouvoir, et enfin le professeur Bakandeja, professeur des finances publiques et de droit des affaires à l'Université de Kinshasa et à l'Université de Paris en Sorbonne, ancien président du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo, ancien ministre de l'économie et commerce, ancien président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Nous verrons tout cela dans la seconde partie de notre mission, mais tout cela après le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Comment la RDC fera-t-elle face à la crise économique? Le regard est en particulier tourné vers les institutions financières internationales. Le point avec notre penseur Jocelyne Moussa.
La Banque mondiale avant tout, ses interventions en 2009 pourraient dépasser le 1,5 milliard de dollars américains. Mais d'urgence, la RDC attend d'elle 100 millions pour lutter contre la crise. Les discussions devront débuter dans une semaine, a confié à l'agence Reuters Marie-Françoise Marinelli, directrice de la Banque mondiale pour le Congo. Ensuite, la Banque africaine de développement, Kinshasa compte obtenir d'elle au moins 50 millions de dollars américains. Le sujet sera sans doute évoqué cette semaine avec une délégation de la BAD qui arrive ce mercredi soir à Kinshasa. Le montant le plus attendu pour secourir le Congo viendrait peut-être du FMI. Le Fonds monétaire international a la possibilité de donner 200 millions de dollars américains comme facilité pour lutter contre la crise. Le rapport des audits qu'il mène à la BCC sera déposé probablement ce soir et l'on verra s'il rendra facile un tel décaissement. Et une fois les fonds décaissés, les réserves de la Banque centrale s'en trouveront renforcées. Ces réserves en forte baisse amplifient en ce moment la dépréciation du franc congolais.
Excusez-moi, Gilbert Caboy-Cazadi, je rappelle que vous êtes ancien directeur à la FEC, hein, vous êtes consultant en matière économique et monétaire. Votre réaction par rapport à cette proposition de la Banque mondiale?
On peut dire qu'elle vient à renommer, mais c'est un problème. Quand vous regardez ce qui se passe à travers le monde, c'est les gouvernements souverains qui, à travers leurs fonds souverains, à travers un certain nombre de leviers, qui prennent une décision pour l'économie. Et comme le disait le professeur Bakandeja à la première intervention, l'État n'est pas le seul opérateur dans l'économie d'un pays. Il y a le privé qui gère en fait l'économie. Alors ici, nous avons deux alliés. Au lieu que ça vienne directement de l'État congolais qui regarde quels sont les opérateurs privés sur lesquels je dois me baser pour maintenir l'économie, il faut attendre que ça vienne de quelque part, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international ou bien de la Banque africaine de développement, avec un certain nombre de conditionnalités. Et ces conditionnalités, il faut les respecter, il faut négocier. Plus on prend le temps, plus l'économie s'enfonce.
Monsieur Gilbert Caboy, est-ce que la RDC ne courait pas à la catastrophe si la Banque mondiale ne s'était pas proposée de lui donner, de lui accorder une aide de près de 100 millions de dollars, hein, parce que les réserves de la Banque mondiale au 13 février sont de l'ordre de 32,86 millions de dollars américains, c'est moins d'un jour d'importation, hein.
Oui, c'est ce que je dis, que ça vient
Excusez-moi,
ce sera peut-être 3, 4, 5, 6 mois, le temps de négocier. Donc, à ce moment-là, l'État congolais n'a pas, disons, la maîtrise de la chose, ce que je disais. Ça vient à connaître. Mais encore faudra-t-il qu'il puisse avoir cette maîtrise-là. Parce que ça vient de l'extérieur, il faut d'abord négocier.
Voilà, je disais que donc les réserves en devise de la Banque centrale au 13 février 2009 et, sont évaluées à 32,85 millions de dollars américains. Professeur Bakandeja, c'est quand même un ouf de soulagement si le Congo, ça n'a pas encore été décaissé, hein, mais si le Congo est élevé en cette période de crise, 100 millions de dollars américains, qu'est-ce que ça peut apporter?
Bon, d'abord, il ne faut pas s'offusquer que les institutions financières internationales viennent en aide à la République démocratique du Congo. Le Congo est membre du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, et c'est tout à fait normal que pour les pays qui sont en difficulté, ces institutions viennent pour les accompagner dans la recherche des solutions aux problèmes qui se posent. Le FMI comme la Banque ont réagi lorsque les pays d'Asie du Sud-Est étaient en crise, et donc la situation du Congo n'est pas différente. Alors, tout dépend maintenant simplement de la qualité de la gouvernance. Parce que d'abord, il y a un décalage entre le temps où on négocie et le temps où les fonds sont disponibilisés. Et quand les fonds sont disponibilisés, encore faut-il, en ce moment-là, on améliore la qualité de la gouvernance, premièrement, et puis qu'on lutte contre les prévarications économiques et financières. Les prévarications proviennent de quoi ?
Ça signifie quoi, prévarication ?
Les prévarications, ce sont les manquements aux devoirs qu'on retrouve dans le chef de beaucoup de fonctionnaires publics. Là où il faut que l'État encaisse les fonds, le fonctionnaire fait que l'État soit privé de ses fonds, notamment dans les décisions qu'il doit prendre. Non seulement donc il faut lutter contre ça, mais en même temps il faut aussi prendre des sanctions pour tous ceux qui participent à la prédation. En ce moment-là, les fonds qui vont être mis à la disposition du Congo peuvent générer d'autres ressources. Il ne faut pas que les fonds soient utilisés pour la consommation. Pourquoi il faut une solution qui n'est pas une solution ponctuelle, il faut une solution durable. Et les solutions durables, on ne peut pas les demander à un gouvernement. Les solutions durables doivent être demandées à des gens qui réfléchissent à froid, sans tenir compte de des attaques, il y a des opposants, il y a ceci. Mais les problèmes économiques, ce ne sont pas des problèmes qui relèvent d'un camp, ce sont des problèmes de la nation.
Professeur Bakandeja, pourquoi la Banque mondiale se propose d'accorder 100 millions de dollars américains à la RDC, la Banque africaine pourrait peut-être débourser 50 millions de dollars, tandis que le FMI pourrait débourser 200 millions de dollars américains. Mais quand on voit certains pays européens qui ont été frappés par la crise financière internationale, comme l'Islande, qui a dû demander l'aide au FMI, au Fonds monétaire international, et cette institution lui a accordé des milliards de dollars, 7 milliards de dollars, si je ne me trompe pas.
Mais écoutez, je vous dis, tout dépend de la qualité de la gouvernance et du sérieux qu'on doit prendre. 100 millions ou 200 millions, c'est insuffisant pour un grand pays comme le Congo. Nous sommes 60 millions, plus de 60 millions d'habitants. Les 200 millions ne vont rien donner comme solution durable. Il en faut davantage. Alors là, il faut qu'on négocie pour donner plus de garanties. Il y a plus de garanties qu'on peut donner. Par exemple, nous avons certaines matières premières. On peut valoriser ces matières premières en les certifiant. Parce que vous voyez, les gens disent que nous sommes un pays très riche, etc. Ce sont des potentialités. Non, ces potentialités doivent être certifiées, valorisées et constituées une garantie lorsque on recourt à l'emprunt international. On ne va pas dépenser de l'argent pour que les gens les utilisent mal et que les prêteurs ne se retrouvent pas dans leurs droits. Donc, je vais encore alourdir la dette.
Merci beaucoup, Jean-Lucien Boussard. Votre réaction par rapport à cette bouée de sauvetage, il faut le dire, de la Banque mondiale.
Mais c'est vrai que nous aurions pu obtenir plus. D'abord, si nous étions un pays dont la gouvernance rassurait les partenaires économiques extérieurs. Or, nous sommes un pays où la gouvernance économique ne rassure personne, y compris nos partenaires extérieurs. Parce que, comme vous savez, nous aurions aujourd'hui atteint le point d'achèvement, nous aurions pu obtenir plus que cela. Pourquoi n'a-t-on pas atteint le point d'achèvement? Parce que le gouvernement était incapable de pouvoir réaliser les critères qualitatifs et quantitatifs, d'une part. D'autre part, je voudrais vous rappeler une fois de plus que lorsque le Premier ministre arrive au Parlement défendre son budget et que des questions lui sont posées sur les effets de la crise financière internationale, il nous dit que la crise financière internationale n'impactait pas sur l'économie congolaise. C'est une affirmation gravissime. Et donc, le gouvernement n'a pas développé à l'interne des mécanismes d'alerte précoce pour se dire, comme tous les autres pays, voici les effets probables de la crise financière internationale. Qu'est-ce que nous envisageons comme mesure pour que nous fassions face, passez-moi la tautologie, à cette crise financière internationale? Ça n'a pas été le cas. Et donc, aujourd'hui, que nous ayons 100 millions de dollars, alors que nous aurions pu obtenir 1 milliard, 500 millions, etc., ben bon, nous méritons ce que mérite la qualité de notre gouvernance. Et donc, moi, j'ai dit très bien pour que la Banque mondiale nous vienne à la rescousse, mais encore que ces fonds soient alloués de manière responsable, de manière à réaliser l'efficience et l'efficacité
des
fonds qui nous viennent des partenaires extérieurs.
Résumez-vous.
Pardon, mais je me suis résumé.
Voilà.
C'est ce que je pouvais dire.
Merci, merci beaucoup. Nous accueillons également dans ce studio Aurélie Moupapa pour les réactions de nos auditeurs. Vous êtes leur porte-parole ce soir. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir. Pour les réactions, nous avons Félix Kisanda de Kindu au Maniema demande si les 100 millions de dollars que la Banque mondiale va donner serviront à régler le problème de la dépréciation du franc congolais. Et puis Jean-Claude Goutoulé de Bounia en province orientale qui demande si cette aide ne va-t-elle pas alourdir la dette de la RDC. Félix Kisanda de Kindu dans la province du Maniema voudrait savoir quand est-ce que les institutions établies feront face aux problèmes du pays sans recourir aux aides étrangères. Et enfin, nous avons Sylvain de Baraka au sud Kivu qui pense que l'économie congolaise ne peut pas marcher dans la meilleure voie là où la politique est en déroute.
Merci beaucoup Aurélie. Mon papa, merci également à tous nos auditeurs. Professeur, j'ai également la question. Hein. Je vous demanderai de réagir vraiment en une minute parce qu'il ne nous reste plus que 3 minutes. Antoine Mouikilo de l'Action citoyenne à Kinshasa qui demande pourquoi la Banque mondiale n'apporterait-elle pas un appui budgétaire direct aux communes et territoires. 100 millions de dollars à concentrer dans une centaine de territoires porterait plus de résultats pour la population que 500 millions de dollars prêtés au gouvernement central en une minute.
Bon, en une minute, on ne peut pas régler les problèmes aussi importants en une minute. Je dis tout simplement que lorsque ces institutions viennent à l'appui à la politique du gouvernement, c'est pour aider à résoudre les problèmes qui concernent l'ensemble des citoyens. J'ai dit que tout dépend de la qualité maintenant de la gouvernance et des contrôles qui doivent être exercés sur ceux qui gèrent l'économie du pays.
Quelle priorité, on doit affecter cet argent, quelle priorité en ce temps de crise, c'est pas dans des fêtes.
Mais vous savez, le problème, monsieur le journaliste, on parle de trop de crises maintenant, parce que tous les autres en parlent sur le plan international. Mais ce pays connaît déjà des crises financières depuis longtemps, depuis les années 90. On dirait que les choses ont commencé en 2008. Nous avons, souvenez-vous, vers les années 80, nous avons connu ici une crise bancaire dans ce pays, avec l'effondrement de plusieurs banques de Crédit Agricole, la Sofidé, etc., qui étaient des banques qui devaient financer le développement. Nous avons connu des crises d'échange, ce n'est pas la première fois qu'on connaît la crise d'échange, vers les années 86. Nous avons connu des crises de solvabilité pour le pays, donc ce n'est pas la première fois.
Merci beaucoup, M. Gilbert Kaboué-Kazali. Félix, qui est un de Kindu Maniema, demande si les 100 millions de dollars que la Banque mondiale va donner à la RDC serviront à régler le problème de la dépréciation du franc congolais. Si la Banque mondiale donne cet argent et la crise est finie, ou même d'autres institutions, en une phrase.
Pas du tout. Encore faudrait-il savoir comment orienter ce fonds-là. Je voudrais peut-être rapidement revenir à quelque chose de fondamental. Le président déjà l'a dit. Nous avons un problème de crise économique de notre pays. Je crois qu'il faut mettre certaines orientations partisanes. Parce que si aujourd'hui, on peut dire par-ci, par-là, que l'économie congolaise n'est pas bien gérée du tout, mais il ne faut pas trop exagérer parce que personne ne peut être mauvais à 100%.
Merci. On n'a plus qu'une minute, hein. S'il vous plaît, Jean du Saint-Boussa en 30 secondes, hein, Sylvain Baraka du Sud Kivu, qui pense que l'économie congolaise ne peut pas marcher dans la meilleure voie là où la politique est en déroute. En quelque sorte, faites-moi de la bonne politique et je vous ferai de la bonne économie, c'est ça?
Ben, je dirais tout simplement qu'il a raison, mais j'ajouterai par rapport à 100 millions de dollars qui est une intervention ponctuelle qui ne touche pas la structure de l'économie réelle. Et pourtant, c'est de là qu'on a besoin, Deuxièmement, le gouvernement doit développer une politique alternative en matière économique pour faire face de façon structurelle à la crise financière internationale et non reposer sa politique sur des questions conjoncturelles.
Merci beaucoup. À quoi affecter cet argent, alors, les 100 millions en 30
ans ? Certains sont toujours d'accord avec le gouvernement. Là où ils affectent, c'est de l'argent pré-affecté. Hein. Là-dessus, c'est pour soutenir le marché des champs, je pense. Et donc, c'est de l'argent pré-affecté. Ce n'est pas un gouvernement qui, de manière indépendante,
affecte l'argent. C'est par vous que nous mettons un point final à cette émission. Elle était réalisée par Guy Maté, mise en onde par Sylvain Matundou. Merci à toute l'équipe de Dialogue en Congolais, Aurélie Moupapa, Guy Maté et Kiki Mputu qui l'ont préparé sous la coordination de Martin Sebujangwe. Bonsoir chez vous.
20h à Kinshasa, heure de plus à Lubumbashi dans le Katanga.